le Pharaon, un dieu parmi les hommes. Cela se manifeste tout d'abord par sa titulature. Comportant ces cinq noms, elle manifeste l'écart infini qui sépare Pharaon du commun des mortels et définit son rôle de souverain. Le nom d'Horus, précédé du hiéroglyphe d'Horus, représente le roi en tant que l'incarnation terrestre du dieu Horus, ancêtre de tout roi d'Égypte, et comme tel identifié avec le dieu Ré. Le nom de Nepti symbolise la Haute et la Basse Égypte par l'union de la déesse Vautour et de la déesse Cobra. Elles sont Nepti, terme qui veut dire « les deux maîtresses ». Le nom Horus d'or est représenté par un faucon posé sur le hiéroglyphe désignant l'or. L'or est la chair des dieux, donc de Pharaon, et le symbole solaire par excellence. Le prénom, ou plus exactement le nom de Nesout-Bit, celui qui appartient au roseau et à l'abeille, symbole de Haute et de Basse-Égypte. Terme le plus souvent traduit par « roi de Haute et Basse-Égypte ». Il est suivi par un premier cartouche contenant le nom d'accession au trône du pharaon choisi pour le couronnement. Le nom de fils de Ré, suivi du nom personnel de Pharaon, est inscrit dans un second cartouche. Pharaon manifeste également sa toute-puissance dans ses attributs de royauté. Ainsi, il arbore la couronne de Haute-Égypte, une mitre blanche, mais aussi la couronne de Basse-Égypte, une tiare rouge. Les deux réunis constituent le pschent, la coiffure royale par excellence. Selon les circonstances, Pharaon porte d'autres coiffures royales, dont le némès, une coiffure se terminant par une natte, et le képresh, le casque de guerre. Dans l'Égypte ancienne, l'absence d'études sur les institutions juridiques rend les connaissances sur les institutions sociales très aléatoires. Les différents types sociaux sont évoqués à travers les bas-reliefs, les peintures ou les rondes-bosses. Le livre de la Satire des métiers contient une description des fonctionnaires au Moyen Empire, au début du premier millénaire avant Jésus-Christ. Il en vante les avantages et se tait presque complètement sur les autres corps de métier, si ce n'est pour en souligner les inconvénients. Les ouvriers. La découverte ces dernières années d'un village ouvrier à Dar el-Médiné, daté du Nouvel Empire dans la deuxième moitié du premier millénaire avant Jésus-Christ, a permis de mieux cerner la vie quotidienne de ceux qui étaient préposés au creusement des riches tombes des nobles. Nous avons quelques indications, mais comparées à d'autres civilisations, celles-ci peuvent paraître insuffisantes sur certaines classes sociales, les fondeurs de métaux, teinturiers, bouchers. Leur travail est rémunéré pour l'essentiel sous forme de nourriture, pain, cruches de bière, légumes et volailles. Parfois s'y ajoute une gratification, un objet, un petit bijou fantaisie. Les esclaves. Aucun nom en égyptien ancien ne permet précisément de supposer qu'il y avait vraiment de l'esclavage. Souvent pris comme butin de guerre, les prisonniers étaient utilisés comme main-d'œuvre pour les travaux publics, creusement de canaux, construction des pyramides sans statut inférieur juridiquement défini. L'esclave en Égypte est une main-d'œuvre bon marché dans un pays où les corvées collectives sont innombrables. C'est un apport essentiel pour creuser les canaux, entretenir les parcelles, bien plus encore que pour aider à la construction des temples ou des pyramides. Les théories d'esclaves malmenés, gémissant sous le fouet, sont bien plus crédibles à Hollywood que dans l'ancienne Égypte. Au demeurant, le sort des vaincus pouvait être plutôt effroyable. Nombre de bas-reliefs illustrent une bien atroce manière de compter les vaincus par des amoncellements de mains ou de phallus tranchés. Exagération voulue pour terroriser l'ennemi potentiel? Triste réalité? Aucune réponse définitive n'a été apportée à ce jour. La femme. Par rapport à bien d'autres sociétés antiques, on peut dire que la situation de la femme dans l'Égypte ancienne était tout à fait exceptionnelle. Le mariage égyptien, comme le mariage mésopotamien, est monogamique, sauf au sein de la famille royale, où les noms de diverses épouses apparaissent à côté de celui de l'unique grande épouse royale. C'est aussi à l'intérieur de la famille royale que pouvait se faire une union entre frères et sœurs, symbolique ou consommée. Les femmes seront investies de fonctions sacerdotales au Nouvel Empire. Elles se consacrent à Amon, dont elles deviennent peu à peu les grandes adoratrices, avec un pouvoir politique réel, contrebalançant celui du pharaon. Des reines, comme Hatshepsut ou Cléopâtre, jouèrent un rôle primordial dans la société. Mais les simples femmes disposent de droits. Douer, pour leur permettre de vivre en cas de veuvage, héritage, droit de disposer de leurs biens propres, de les administrer, de les léguer, et tout cela sans tutelle masculine. Hieroglyph and Co. De toutes les écritures anciennes, l'écriture égyptienne est celle qui nous offre le plus clairement le type d'écriture de mots réalisé à l'aide de représentations d'objets par le moyen de symboles transparents. La tradition en attribue la création à Thoth, dieu de la basse Égypte. L'étymologie grecque du mot hiéroglyphe, écriture sacrée, en souligne donc l'aspect sacré. Clément d'Alexandrie, 200 après Jésus-Christ, distingue trois sortes d'écriture égyptienne. Fin du 1er au 3e millénaire, le hiéroglyphique réservé aux monuments. Fin de l'Ancien Empire, le hiératique, écriture cursive utilisée pour les documents administratifs, littéraires ou scientifiques. 8e siècle avant Jésus-Christ, le démotique, écriture elle aussi cursive en usage pendant 1000 ans, dont se servait notamment Hérodote. La religion égyptienne. Dans l'Égypte ancienne, les origines de la religion se trouvent dans les divinités des Noms. Après l'union du royaume de Basse et de Haute-Égypte, Seth et Horus vont supplanter les autres dieux. Lié à la notion de mâle, Seth lutte en permanence avec Horus, le dieu faucon. La zoolâtrie, un des aspects primitifs de la religion égyptienne, subsistera toujours. Innombrables, les dieux de l'Égypte ancienne prennent des formes infiniment variées. Ils peuvent être totalement anthropomorphes, comme Osiris, dieu des morts, ou ses sœurs épouses Isis et Nephthys, mais aussi revêtir une forme animale, à la manière de Sobek, le dieu crocodile, ou Touéris, la déesse hippopotame. Ils peuvent encore être hybrides, en partie humain, en partie animal, comme Hathor, déesse de la joie et de l'amour, femme à tête de vache. Les dieux les plus importants sont Amon, dieu principal de Thèbes. Il est associé à Ré sous le nom d'Amon-Ré. Anubis, dieu funéraire. Il est le fils d'Osiris. Apis, taureau sacré qui est vénéré à Memphis comme l'incarnation du dieu Ptah. Hathor, la déesse de l'amour. Horus, faucon incarnant le dieu du soleil. Il est le fils d'Isis et d'Osiris. Isis, déesse de la maternité et de la fertilité. Elle est la principale déesse de l'ancienne Égypte. Khnoum, dieu à la tête de bélier et au corps d'homme. Il est le maître de l'île d'Éléphantine et gardien de la source du Nil. Maat, déesse de la justice et de la vérité. Elle pèse l'âme du mort ou psychostasie. Osiris, maître du royaume des morts et époux de la déesse Isis. Il est souvent représenté comme une momie. Ptah, dieu de la création, il est le dieu souverain de Memphis. Ré, dieu soleil et dieu de l'univers. Il est au Nouvel Empire associé au dieu local de Thèbes, Amon, et devient Amon-Ré. Seth, dieu du mal, il assassina son frère Osiris et découpa son corps en morceaux. Thoth, dieu de la sagesse à tête d'ibis. Il est également représenté en babouin scribe. Le développement des cultes populaires fut tardif. Pourtant, la légende d'Osiris, mise à mort par son frère Seth, pleurée et recherchée par sa sœur épouse Isis, vengée par son fils Horus, a acquis une grande célébrité. Elle nous est parvenue grâce à la propagation hors d'Égypte du culte d'Osiris, devenu Sérapis à Rome, et surtout de celui d'Isis, qui arriva même en Gaule. Plutarque consacra un opuscule à cette légende, un siècle environ après l'ère chrétienne. La religion égyptienne s'appuie sur le dieu Amon, dont le nom signifie « le caché », au Nouvel Empire, ou sur le disque solaire Aton, auquel le nom du roi Amenophis IV, qui régna au XIVe siècle avant Jésus-Christ, est resté attaché. Tout traduit l'importance permanente du clergé. Moins soucieux de ses problèmes de théologie, Le paysan égyptien porte davantage d'intérêt à tout ce qui concerne sa destinée future. Avoir une tombe, conserver le corps le mieux possible, pouvoir maintenir un certain temps un culte funéraire. Il devait le plus souvent se contenter d'une natte, enroulant le corps et du sable du désert pour le dessécher.
N'oubliez pas. Adieu les dieux, vive Laton. Amenophis IV monte sur le trône en 1350 avant Jésus-Christ. Surtout connu pour l'exceptionnelle beauté de son épouse, la reine Néfertiti, la belle est venue en égyptien, c'est un réformateur religieux d'envergure. Renonçant à la multiplicité des dieux d'Égypte, il décide de n'en adorer qu'un, Aton, représenté sous la forme d'un disque solaire, aux longs rayons terminés par des mains humaines, présentant l'ankh, la croix de vie. En l'an 6 de son règne, il quitte Thèbes, la capitale, et s'installe avec la cour dans sa nouvelle résidence et capitale, Akhet-Aton, la demeure d'Aton, l'actuelle Tell el-Amarna en Moyenne-Égypte. Il fait ensuite détruire les statues du dieu principal Amon et marteler son nom. Dans l'esprit des Égyptiens de l'époque, lorsque le nom de quelqu'un disparaît, il cesse d'exister pour l'éternité. À sa mort, après une époque troublée, le jeune Toutankhamon monte sur le trône. Les anciens dieux reviennent en force. C'est au tour d'Amenophis IV, Akhenaton, de disparaître dans les textes, comme ses statues.
Les textes funéraires. Il existe un grand texte funéraire correspondant à chaque grande période de l'Égypte. Les textes des pyramides, pour l'ancien empire, sont destinés au seul roi. Ils doivent lui permettre de triompher des ennemis qui cherchent à détruire sa momie, puis à devenir dieu en se fondant avec le soleil. Les textes des sarcophages pour le Moyen Empire. Peints sur les parois des sarcophages, c'est une démocratisation du parcours du combattant qui attend les nobles et les personnages importants dans l'au-delà. Les parois peintes des sarcophages en bois, à l'intérieur et à l'extérieur, balisent les étapes dangereuses à franchir pour parvenir enfin devant le tribunal d'Osiris, roi des morts. Le livre des morts. Pour le Nouvel Empire et les périodes postérieures. Rouleaux de papyrus déposés près des momies ou sous leurs têtes, il constitue le plus classique des aides-mémoires dans l'autre monde. Au long de son voyage, le mort accompagne la barque solaire dans son périple nocturne. Il faut sans arrêt passer des portes redoutables ou répondre à des génies malfaisants. Toute erreur entraîne la destruction. Heureusement, un coup d'œil au livre et le mort est sauvé. Un corps d'éternité, la momie du roi. Afin de protéger le corps qui doit traverser intact l'éternité pour assurer la survie du roi, les prêtres multiplient les accessoires protecteurs et les amulettes prophylactiques, c'est-à-dire dont le pouvoir magique doit éviter la dégradation du cadavre. Les doigts et les orteils sont protégés par des étuis en or. Les pieds sont chaussés de sandales d'or. Les cuisses sont ornées de 7 bracelets. Les genoux et les tibias sont protégés de collerettes d'or. Une ceinture en or est posée sur le ventre. Au total, 143 objets précieux sont disposés sur la momie, entre les bandelettes, avant la pose du masque en or représentant le visage du jeune roi. L'or, métal imputrescible, c'est-à-dire qui ne se corrompt pas, représente l'immortalité et la chair des dieux. Le visage d'or du roi est donc celui du dieu qu'il est désormais à jamais.
N'oubliez pas, le masque de Toutankhamon. C'est le 4 novembre 1922 que l'archéologue anglais Howard Carter commence à déblayer l'escalier rempli de sable qui conduit à la tombe de Toutankhamon. Quelques jours plus tard, le 23 novembre 1922, il brise le sceau de malédiction et pénètre dans la tombe du roi. Les fouilles sont conduites pour le compte de Lord Carnarvon, riche aristocrate anglais, féru d'égyptologie. La tombe renferme plus de 3850 objets, tous destinés à servir à la vie quotidienne du roi dans l'au-delà. Mais le plus grand trésor est la momie intacte du souverain, conservée dans 3 sarcophages emboîtés, le dernier en or massif, tout comme le masque qui recouvre son visage. En or massif, lapis-lazuli, cornaline, quartz, obsidienne, turquoise et vert coloré, il pèse 11 kilos, mesure 54 cm de haut et 39,3 cm de large. Il est conservé au musée égyptien du Caire. Le roi porte la barbe postiche, attribut divin, le némès, voile sacré, et sur le front, les deux déesses protectrices de l'Égypte. La déesse Cobra, Wadjet, symbole de Basse-Égypte, et la déesse Vautour, Nekbet, symbole de Haute-Égypte. Ses yeux en amande sont maquillés au kohl. Contrairement à bien des représentations idéalisées du pharaon, les traits reproduits semblent bien être un portrait véritable du roi, marqué encore par les joues rondes et les fossettes d'un adolescent.
La Grèce. Dans cette partie, suivons les héros. Vibrons au récit de leurs exploits. Achille, Ulysse précédant les ancêtres à honorer, cependant que les oracles murmurent les décisions divines dans les bois et les grottes sacrées. Les hommes ont bien assez à faire à créer la cité, à jeter les rudiments de la politique et de la philosophie. Toute l'histoire de la Grèce frémit du fracas des batailles, se réjouit de l'organisation politique des cités, s'émerveille de l'empire universel d'Alexandre. Tournons quelques pages du plus beau livre d'histoire. Un monde de palais. Entre 1900 et 1920, la découverte de l'art crétois par Evans à Knossos lui permet de décrire cette civilisation prodigieuse et de montrer qu'elle précède et explique l'époque mycénienne découverte, elle, par Schliemann, entre 1870 et 1900. Ces civilisations se développent du 3e au 1er millénaire environ. À une civilisation de petites villes succède une civilisation de palais. Knossos, Phaistos, Malia. La civilisation mycénienne s'illustre par une série de forteresses comme celle de Mycène ou de Tirinthe.
Le saviez-vous? Le fil d'Ariane. Pasiphaé, épouse du roi Minos, s'éprend d'un taureau destiné à être sacrifié à Poséidon, dieu des mers et des fleuves. Cette folie amoureuse est une punition du dieu, pour se venger de Minos, qui avait refusé de tuer un si bel animal, fût-ce en l'honneur d'un dieu. De leurs amours naît un fils à corps d'homme, mais à tête de taureau, le Minotaure. Horrifié, Minos l'enferme dans le labyrinthe, prison sans issue conçue par son architecte Dédale. Tous les 9 ans, 7 jeunes gens et 7 jeunes filles y périssent, offerts en sacrifice. C'est le tribut que les Athéniens doivent au roi Minos. Ils sont délivrés de ce cauchemar par Thésée, qui tue le Minotaure et parvient à sortir du labyrinthe grâce à la pelote de fil remise par Ariane, fille du roi tombée amoureuse de lui.
Des envahisseurs venus du nord. Vers 1100, de nouveaux peuples venus du nord, les Doriens, s'installent en Grèce, chassent les Achéens qui cherchent de nouveaux établissements en Asie mineure. À cette époque, le territoire de la Grèce centrale est partagé en petites principautés indépendantes qui unifient peu à peu en un seul État toute l'Attique. On ignore comment la royauté héréditaire fut abolie et remplacée à Athènes par un collège de 9 membres présidé par un archonte roi. Les 9 archontes sont les magistrats les plus respectés jusqu'au 5e siècle. Puis ils ne conservent que des fonctions judiciaires et religieuses. L'un d'eux règle notamment le calendrier et préside les Dionysies, jeux en l'honneur de Dionysos. La liste des archontes est la base de la chronologie à Athènes, et elle débute en 683, avec les noms d'archonte Basileus, roi, compromis entre le collège, les archontes ensemble et la fonction sacerdotale du roi, le Basileus.
N'oubliez pas, les premiers Jeux olympiques. Les premiers Jeux olympiques recensés officiellement ont lieu en 776 avant Jésus-Christ, sur le site d'Olympie, dans la péninsule du Péloponnèse. Selon les mythes, ils auraient été créés par le roi Pélops, qui donne son nom au Péloponnèse, par Héraclès ou même par Zeus lui-même, le roi des dieux. Chacun aurait eu à cœur d'y célébrer une victoire. Par la suite, les Jeux ont lieu tous les 4 ans. L'intervalle qui les sépare, appelé une Olympiade, servant de chronologie aux Grecs comme de nos jours, nous datons à partir de Jésus-Christ. C'est en 393 que l'empereur romain chrétien Théodose interdit les Jeux de notre ère, prétextant qu'ils ont lieu en hommage à des dieux païens.
La société grecque. C'est aux Grecs que nous devons l'invention des principaux systèmes politiques, des modes de gouvernement. Ils sont les premiers à s'interroger sur la place, les droits et les devoirs du citoyen. Mais il ne faut pas se tromper sur le sens de ces termes. La démocratie grecque est réservée à l'élite restreinte et uniquement masculine d'un petit groupe de citoyens dans chaque cité. Les différentes formes de l'organisation politique. Les origines de la croissance des cités grecques sont encore assez mal cernées. Le point de départ en a été sans doute le génos, groupe familial qui a dû se regrouper en tribus ou en fratries. L'individu, au fur et à mesure de la constitution de la cité, se libère des contraintes familiales, fondées essentiellement sur les traditions et les lois coutumières, le nomos. Jusqu'au 5e siècle, la Grèce compte de nombreuses cités, notamment les 400 États environ, surtout des cités, regroupées dans la Ligue de Délos par les Athéniens et leurs alliés. Mais chacune d'entre elles est régie par un système où le statut des citoyens et des non-citoyens diffère, ce qui entraîne des relations elles aussi différentes entre ces catégories d'habitants. La Grèce a connu et expérimenté tous les modes de gouvernement toujours en vigueur de nos jours. Rappelons quelques grandes formes. Dans un gouvernement oligarchique, comme dans la Grèce archaïque et ou à Sparte, le pouvoir est exercé par un petit nombre d'hommes. S'ils se distinguent par la richesse, on parle alors de plutocratie et d'aristocratie, pour les groupes privilégiés par la naissance. Le gouvernement tyrannique, caractéristique de la Grèce archaïque, est un gouvernement dirigé par un homme qui dicte ses volontés sans règles préétablies. Pisistrate, à Athènes, profite ainsi des troubles pour s'emparer du pouvoir au VIe siècle avant Jésus-Christ. Le gouvernement démocratique, qui se développe dans la Grèce classique, repose sur l'assemblée des seuls citoyens. Le gouvernement monarchique, typique de la période hellénistique, est caractérisé par l'exercice du pouvoir par un chef unique, ou roi.